l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h en temps universel. Anne Corpé à mes côtés dans 10 minutes, son décryptage consacré au sommet des parias après la rencontre aujourd'hui entre Vladimir Poutine, le président russe, et son homologue de Corée du Nord, Kim Jong-un. Mais d'abord, votre journal, Anne, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Vague de chaleur meurtrière à la Mecque, plus de 900 pèlerins ont succombé la semaine dernière au cours du pèlerinage annuel dans la ville la plus sainte de l'islam. De nombreuses victimes viennent d'Égypte, nous appellerons le Caire dans un instant. Une amitié fougueuse, c'est en ces termes que le leader nord-coréen qualifie la relation de son pays avec la Russie. Kim Jong-un a scellé un traité de partenariat stratégique avec Vladimir Poutine en visite à Pyongyang. Correspondance à suivre d'Anissa El-Jabri. Les États-Unis incrédules après les propos de Benjamin Netanyahou. Dans une vidéo, le premier ministre israélien dénonce des retards dans les livraisons d'armes américaines. Explication avec Sami Bourkhalifa, notre correspondant à Jérusalem. Enfin, ce coup de filet dans les milieux indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. 11 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir fomenté les émeutes dans l'archipel français du Pacifique Sud, nous dira Marie Casadebé. C'est dans une fournaise meurtrière que des musulmans du monde entier ont effectué leur pèlerinage à la Mecque la semaine dernière. Les températures ont dépassé les 50 degrés et selon un nouveau bilan, cette vague de chaleur a provoqué plus de 900 décès. Alexandre Bouchianti, vous êtes en direct du Caire, bonsoir.
Oui, bonsoir.
De nombreux morts sont des pèlerins venus d'Égypte. Selon des diplomates arabes cités par l'AFP, il serait plus de 600.
Oui, plus de 600 sur un total justement de 900 morts. Donc l'explication qui est donnée officieusement par les responsables égyptiens qui est que la vague de chaleur a fait cette mortalité très élevée chez les Égyptiens ne tient pas tout à fait la route parce que en fait les pèlerins égyptiens représentent seulement 5% de tous les pèlerins du monde. Or, il y a plus de 50% des morts qui sont égyptiens. Et donc c'est sur les médias sociaux qu'on trouve l'explication. Le coût minimum pour le grand pèlerinage à la Mecque dépasse 4 années de SMIC, c'est-à-dire un coût qui va au-delà de ce que peuvent payer beaucoup d'Égyptiens et donc beaucoup d'entre eux ont contourné la réglementation du Hajj et se sont rendus en Arabie pour tourisme, soit l'équivalent d'un simple billet d'avion, et ils ont ensuite cherché à s'introduire subrepticement à la Mecque. Ceux qui ont réussi n'ont eu ni gîte, ni couverture médicale, et ce qui, par très grande chaleur, pour les plus âgés, peut se révéler mortel.
Merci Alexandre Bouchianti. Un partenariat stratégique lie désormais la Russie à la Corée du Nord. Il a été signé aujourd'hui à Pyongyang, où le président russe a été accueilli avec faste par le régime nord-coréen. Il s'agissait du premier déplacement de Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans en Corée du Nord. Les deux régimes parias ont célébré leur amitié et ont affiché leur volonté de coopérer, notamment sur le plan militaire. Correspondance à Moscou, Anissa El-Jabri.
Le chef de l'État russe a qualifié la Corée du Nord de vrais amis et bons voisins, le type de formule habituellement réservée aux alliés très proches. À son vrai ami, donc, Vladimir Poutine a fait de beaux cadeaux, comme une deuxième voiture Taurus, un véhicule de fabrication russe destiné au cortège officiel, mais surtout cette déclaration. Les sanctions de l'ONU pour le programme nucléaire nord-coréen doivent être réexaminées. Pas sûr que cela plaise beaucoup à son autre grand ami, Pékin, très soucieux de stabilité mondiale. Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont aussi signé, et c'est évidemment le plus important, un accord d'assistance mutuelle en cas d'agression et escalade rhétorique, mais comme toujours laissant planer le doute sur sa concrétisation. Vladimir Poutine a aussi précisé « La Russie n'exclut pas une coopération militaro-technique avec la Corée du Nord ». Tout pour montrer encore une fois les muscles et les dents face à l'Occident, y compris avec un État considéré comme paria, par la plupart des pays de la planète. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et on reviendra plus longuement sur cette visite du dirigeant russe à Pyongyang après ce journal dans Décryptage avec Pascal Daïès-Burgeon, chargé de mission au CNRS et auteur de « La dynastie rouge » publié chez Perrin. Aucun lieu en Israël ne sera épargné par les missiles du Hezbollah si les menaces d'attaquer le Liban sont mises à exécution. Déclaration faite ce soir par Hassan Nasrallah. Dans une déclaration télévisée, le chef de la puissante milice chiite a également menacé Chypre au cas où le pays laissait l'armée israélienne utiliser ses aéroports pour cibler le Liban. C'est la première fois que cet État membre de l'Union européenne est ainsi mis en garde par le Hezbollah. Dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 8 mois de guerre, les bombardements israéliens se sont poursuivis ce mercredi, principalement à Rafah, dans le sud. Des combats terrestres ont aussi opposé les soldats israéliens aux combattants du Hamas. Et c'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou a publié une vidéo dans laquelle il accuse les États-Unis d'entraver leur livraison d'armes à l'État hébreu. Des propos du Premier ministre israélien qui ont suscité l'incompréhension à Washington. Nous ne savons vraiment pas de quoi il parle, a réagi un porte-parole de la Maison Blanche. Explication avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Comme il sait le faire, Benjamin Netanyahou se met en scène dans une courte vidéo. Son message, en anglais, s'adresse au plus proche allié d'Israël, les États-Unis. Washington apporte un soutien sans faille à l'État hébreu. Pas assez, estime le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était récemment ici, en Israël. Nous avons eu une conversation franche. Je lui ai dit que j'appréciais vraiment le soutien américain à Israël depuis le début de la guerre, mais j'ai aussi dit autre chose. J'ai dit qu'il était inconcevable que durant les derniers mois, l'administration américaine ait refusé l'envoi d'armes et de munitions à mon pays.
Une accusation factuellement fausse. Washington a certes menacé Israël de suspendre les livraisons d'armes, mais ne l'a jamais fait. Seule restriction pour le moment, l'envoi de bombes dévastatrices d'une tonne en raison de leur utilisation par l'armée israélienne dans des zones densément peuplées à Gaza. Des commentateurs israéliens y voient une diversion dans une guerre qui semble sans issue. Pour eux, à travers ces déclarations, Benjamin Netanyahou cherche surtout à faire porter la responsabilité d'un échec militaire à Gaza au président Joe Biden. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Indignation unanime en France après le viol et les insultes antisémites subies par une jeune fille de 12 ans. Un fait divers tragique qui intervient en pleine campagne électorale. Les condamnations ont afflué de l'extrême droite à l'extrême gauche à 11 jours du scrutin. En Grande-Bretagne, c'est dans 2 semaines qu'auront lieu les élections législatives. Elles pourraient déboucher sur une défaite retentissante des conservateurs au pouvoir depuis 14 ans. De nouveaux sondages placent ce mercredi les travaillistes en route vers une victoire historique. En Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République a annoncé une série d'arrestations dans les milieux indépendantistes. Elles interviennent 5 semaines après le début des violences qui ont secoué l'archipel français du Pacifique. Le collectif indépendantiste, qui a toujours démenti être à l'origine des émeutes, dénonce une provocation. Marie Cazadebé.
Il est 6h du matin, heure locale, ce mercredi, quand la gendarmerie interpelle 11 personnes à Nouméa, la capitale de l'archipel, et Mondor, une ville voisine. Parmi elles, Christian Tin, le responsable de la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT. Un collectif né fin 2023 qui regroupe syndicats, mouvements politiques et associatifs. Au 3e jour des violences, après la mort d'un gendarme, Gérald Darmanin le pointe du doigt. Pour le ministre français de l'Intérieur, la CCAT est l'instigatrice des émeutes. Il la qualifie même d'organisation mafieuse. L'arrestation des 11 suspects a été réalisée dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs, vol avec armes en bande organisée, complicité de meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Au vu de la gravité des faits, leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Au cours de ces 5 dernières semaines, 9 personnes ont trouvé la mort en Nouvelle-Calédonie, dont 2 gendarmes. On compte également des centaines de blessés et des dégâts évalués à 1,5 milliard d'euros.
En football, la 2e journée des matchs de poule de l'Euro 2024 a débuté ce mercredi. L'Albanie a arraché un match nul face à la Croatie, 2 buts partout. L'Allemagne, pays organisateur, affrontait la Hongrie et l'a emporté 2-0. Le dernier match opposera ce soir l'Écosse à la Suisse. Et concernant les Bleus, toujours des interrogations sur la participation du capitaine Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez. Il s'est entraîné en retrait de l'équipe de France ce mercredi à 2 jours du match contre les Pays-Bas. À signaler enfin ce succès au cinéma en France, le film Un petit truc en plus a dépassé les 7 millions d'entrées selon les chiffres publiés ce mercredi. La comédie signée par l'humoriste et acteur Artus met en scène des personnes en situation de handicap. Elle prend le parti de rire avec elles et non à leurs dépens. Un film formidable, je vous le recommande.